Dr Michaud, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Merci d'être là avec nous. Bientôt, cette chaire de recherche soufflera sa première bougie dans quelques jours. Quel est le constat qui a été fait dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire, Dr Michaud?
En fait, nous commençons à peine les travaux de la chaire. Donc, c'est vraiment une chaire qui est centrée sur deux volets, comme je vous mentionnais, c'est-à-dire un volet qui vise à améliorer nos capacités à trouver la cause des différentes formes de déficience intellectuelle. Et on utilise de plus en plus des outils basés sur l'exploration de tout le génome, parce que la génétique joue un rôle important dans au moins 80% des familles où on trouve la déficience. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les technologies de la génomique, c'est-à-dire d'étudier l'ensemble des 20 000 gènes d'emblée pour essayer d'augmenter notre capacité d'identifier les causes. Donc, il y a ce volet-là. Puis l'autre volet, c'est vraiment sur la base de la connaissance de ces gènes, d'essayer de comprendre leurs fonctions et de développer des stratégies de traitement qui seraient adaptées à chaque enfant.
Parce que maintenant, en 2016, on ne connaît toujours pas les causes ou la cause de la déficience intellectuelle.
Bon, on en connaît. On peut expliquer plus de la moitié des enfants ou adultes avec déficience. On peut expliquer la déficience chez plus de la moitié des familles. Et comme je dis, on pense qu'il y a à peu près 20% des cas où il y a un facteur environnemental, que ce soit une méningite sévère, une exposition pendant la grossesse à un agent qui est nocif. Donc ça, c'est ça explique la minorité des cas. La plupart des cas mettent en jeu des facteurs génétiques qui peuvent ne pas être hérités dans la famille. Donc ça, c'est un concept très important. Parce que plus les formes sont sévères, moins encore des formes héritées aussi, mais parce que les gens, les familles souvent on sont un peu étonnés lorsqu'on parle de génétique alors qu'il n'y a pas d'histoire dans la famille. Donc parfois on peut être porteur d'un gène qui prédispose à la possibilité d'avoir un enfant en temps, mais aussi il y a ce concept des mutations spontanées, des mutations qui ne sont pas héritées par les parents, qui apparaissent chez l'enfant et qui représentent probablement la cause principale de déficience. Mais globalement, on connaît la cause près de un peu plus de la moitié des cas, et la capacité à poser un diagnostic s'améliore rapidement avec une nouvelle technologie, et on espère que au cours des prochaines années, on pourra identifier la cause chez la majorité des enfants.
Donc, pour bien faire la distinction, on peut dire que la déficience intellectuelle, c'est de la faute ou dû à des gènes, mais ça ne veut pas dire que c'est héréditaire, donc que ça nous vient de nos parents.
C'est exactement ça. La cause principale, la cause génétique principale, sont vraiment des anomalies génétiques qui surviennent spontanément chez l'enfant. Et l'idée, c'est que notre génome est plastique, est continuellement en train de se remanier. Il y a des erreurs qui apparaissent continuellement chaque fois qu'une cellule se divise. Et qu'il y a la grande majorité de notre patrimoine génétique est hérité de nos parents, mais il y a des petites fautes d'orthographe, des changements qu'on trouve chez tout le monde. On est tous avec des petits changements dans nos génomes qu'on ne trouve pas chez nos parents, qu'on ait une histoire familiale de déficience ou non. Et parfois, ces erreurs, ces changements génétiques vont toucher des gènes qui sont importants pour le développement du cerveau. Et donc, c'est un peu une loterie et personne n'est à l'abri de ça. Et c'est vraiment pas, dans la majorité des cas, un facteur qui est hérité dans la famille. Par contre, il y a des formes vraiment héréditaires où le gène s'exprime pas chez les parents pour toutes sortes de raisons. Mais les parents peuvent être porteurs et il peut avoir un risque de récidive lors de leur grossesse subséquente.
Et lorsqu'un médecin fait le diagnostic d'une déficience intellectuelle, est-ce qu'il le fait par des signaux amenés par l'enfant ou c'est vraiment en identifiant les gènes?
La grande majorité des cas, c'est vraiment, le mode de présentation, c'est vraiment celui du retard de développement. C'est-à-dire qu'un enfant, les parents notent que l'enfant tarde, par exemple, à marcher ou à parler. Et c'est généralement ce mode de présentation qui va amener les parents à consulter et ça va culminer souvent dans des explorations génétiques dans le deuxième temps.
Oui. Dr Michaud, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant en disant que souvent, la déficience intellectuelle, c'était un peu une face cachée, invisible dans le système de la santé et que, bon, oui, peut-être parce que ces personnes-là ne sont pas malades, elles vivent avec une déficience intellectuelle, mais elles ne vont pas en mourir, mais que pourtant, tout ça a un grand impact pour la société. Il y a aussi, j'imagine, un impact sur la santé, autant de la personne touchée, mais des familles.
Oui, alors c'est vrai que c'est un problème enfin, c'est une problématique qui n'a pas beaucoup de visibilité au sein du système de santé, enfin, au moins au sein des hôpitaux, là. Au sein du système de santé plus large, bon, c'est assez présent. Mais comparativement à une condition comme l'autisme, qui a beaucoup de visibilité, la déficience, on en parle très peu, alors que ce sont deux conditions qui souvent coexistent et qui parfois touchent les mêmes gènes. Alors, c'est bon, il y a une question de perception. Et c'est vrai que si vous avez un enfant qui a peu de problèmes associés, c'est-à-dire que lorsqu'on a une déficience intellectuelle, on augmente le risque d'avoir une problématique associée, que ce soit l'autisme, mais aussi l'épilepsie, qui peut exiger des interventions médicales assez soutenues. Ben, si un enfant a une déficience sans ces autres problématiques, généralement, il va se retrouver, c'est plus la prise en charge dans les milieux dans les CRDI ou dans les milieux scolaires que la prise en charge va se faire et moins dans les hôpitaux. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui, c'est peut-être ma perception à moi, mais j'ai l'impression que c'est une problématique qui est moins visible au sein des systèmes, des hôpitaux, là, c'est certain.
Oui. Mais ça a des impacts sur les enfants, sur les familles. Quels sont les impacts sur la santé globale d'un individu qui est touché par la déficience intellectuelle?
C'est une question difficile parce qu'en fait, il y a probablement plus de 1000 gènes différents qui peuvent causer la déficience. Et donc, il y a des formes qu'on dit syndromiques qui sont associées à d'autres problèmes. Par exemple, la trisomie 21 est associée à un risque de malformation cardiaque. Et ces malformations cardiaques peuvent causer des problèmes de santé qui peuvent même amener à une chirurgie à cœur ouvert. Dans certains cas, il y a d'autres enfants qui sont à risque d'avoir une épilepsie très sévère, difficilement contrôlable, ce qui amène aussi une prise en charge médicale assez lourde. Donc, il y a des maladies plus rares qui peuvent causer une déficience, mais qui sont associées aussi à des risques de développer des compensations métaboliques là, avec coma. Les enfants peuvent perdre la conscience, ils se retrouvent en coma parce que leur maladie n'est pas bien contrôlée. Donc, il y a toute une. On parle de déficience en référence peut-être une image unique, mais en fait, il y a plein de volets différents. Et même les enfants qui ont une forme de déficience non syndromique, ça peut être très variable d'un enfant à l'autre, avec des problèmes de comportement plus sévères chez un, chez l'autre moins, des problèmes de cognition, d'apprentissage, mémoire qui peut être plus sévère. Donc, c'est très, très hétérogène. Et d'où l'importance d'identifier la cause parce que on avait dans le temps tendance à traiter tous ces enfants-là un peu de la même façon, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une très grande hétérogénéité et si on connaît la cause, ben, ça offre l'espoir d'avoir une approche qui est plus adaptée, plus personnalisée, avec l'espoir d'améliorer le devenir de ces enfants.
Oui. Donc, connaître la cause pourrait aussi aider à prévenir? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de possible?
Bien, l'idée, c'est que quand vous avez un enfant, comme vous le mentionnez au tout début, quand on vous annonce que votre enfant a un retard de développement ou une déficience, c'est sûr qu'il y a un millier de questions qui se posent aux familles, aux parents. La première question, c'est la question de la cause. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et donc, il y a souvent un sentiment de culpabilité qui est clairement illégitime là, dans la plupart des cas, mais c'est quelque chose qui est très présent, et souvent chez les mères en particulier, que j'ai dû faire quelque chose pendant la grossesse. Donc, l'idée d'arriver avec un diagnostic, ça permet de soulager, d'évacuer ce problème-là. Mm-hmm. Avec l'importance de trouver la cause aussi, ça amène les familles à passer les enfants à subir toutes sortes de tests, des résonances magnétiques, des ponctions lombaires, des biopsies, des tests génétiques. L'idée d'arriver à un diagnostic très rapidement, ça permet de passer à autre chose. On laisse tomber toute cette odyssée diagnostique-là. Puis donc, l'idée d'un diagnostic, ça permet de soulager un peu l'anxiété, dans une certaine mesure, mais ça permet aussi de passer à autre chose, de focaliser notre énergie sur l'enfant. Et le diagnostic aussi permet peut-être, dans certains cas, puis j'espère dans une proportion grandissante d'enfants, d'arriver à élaborer des stratégies de prévention secondaire. C'est-à-dire que si un enfant est à risque sur la base de connaissance du gène, de par exemple développer une surdité ou une épilepsie, on fait de la prévention. On espère un jour qu'il y aura des traitements plus spécifiques pour l'épilepsie qui dépendraient de la connaissance du gène. Et à l'école, s'il y a des taux de comportement ou des difficultés d'apprentissage spécifiques, on peut, sur la connaissance d'autres enfants qui ont la même condition, arriver possiblement des stratégies qui sont plus adaptées, plus optimales. Et évidemment, l'espoir, c'est d'améliorer la vie, le bien-être de ces enfants-là. Alors, parfois, c'est c'est sûr qu'ils ont, c'est souvent une problématique de déficience qui est pas isolée, donc ils ont ces problèmes médicaux dont je mentionnais, mais aussi ils peuvent avoir des troubles de comportement qui peuvent être assez importants, pas chez tout le monde, mais parfois il y a des troubles d'opposition assez importants, des problèmes d'agressivité chez une minorité, mais quand même ça peut poser des problèmes d'attention, des problèmes de tic, etc. Donc tous ces problèmes associés au comportement, et lorsqu'on parle de traiter, il y a l'espoir aussi d'améliorer peut-être les capacités d'apprendre à acquérir une certaine autonomie, mais peut-être aussi à contrôler tous ces autres problèmes associés, ce qu'on appelle les comorbidités, qui ont une tonalité parfois plus médicale, mais parfois plus, si vous voulez, comportementale. Mm-hmm. Et donc, mais pour l'instant, il y a juste une petite minorité de formes de déficience qui sont traitables ou qu'on peut prévenir.
Oui. Et par traitement, vous pensez à un médicament, à une thérapie? Comment ça pourrait se révéler, ce traitement-là?
Il y a beaucoup de formes de déficience actuellement qui sont traitables parce que ce sont des maladies métaboliques, des erreurs innées du métabolisme. Ce sont des maladies où il y a une enzyme qui est déficiente, et on peut contourner la déficience de cette enzyme-là, la traiter en donnant à l'enfant une diète très spécifique.
Okay.
Et donc, il y a beaucoup d'enfants, qu'on appelle ça des maladies métaboliques, donc il y a beaucoup d'enfants au Québec qui sont suivis. Et un exemple, c'est la phénylcétonurie, c'est dépisté. Tous les nouveau-nés du Québec sont dépistés. Et si un enfant est dépisté, ben on lui offre cette diète-là qui lui empêche de développer une déficience. Et donc, une diète spéciale. Donc, il y a plusieurs exemples, il y a de plus en plus d'exemples de ces conditions, de ces maladies métaboliques où une diète spéciale ou l'administration d'une vitamine ou d'un produit naturel qui permet de contourner la déficience. Dans tous les cas, ne va pas nécessairement guérir l'enfant, mais peut certainement diminuer l'impact de la maladie.
Mm-hmm.
Alors, l'autre, maintenant, c'est une minorité des formes de déficience qui peuvent bénéficier de ce genre de traitement. Il y a beaucoup d'intérêt en recherche maintenant pour identifier des petites molécules qui permettraient de traiter spécifiquement, vraiment spécifiquement la déficience. L'exemple, c'est le syndrome du X fragile, qui est une des formes fréquentes de déficience intellectuelle. Le gène a été identifié il y a près de 20 ans maintenant. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la fonction du gène, puis sur la base de ces connaissances-là, il y a une stratégie qui a été développée, qui a été validée dans des modèles animaux, où on a pu montrer que l'administration de petites molécules peut permettre de diminuer, améliorer les même corriger les déficits d'apprentissage et de mémoire. Puis il y a eu un grand essai clinique récemment qui a été fait chez l'humain et qui n'a pas permis de montrer que le médicament fonctionnait. Donc, une grande déception, mais c'était une première. C'est la première fois une des premières fois où on avait utilisé cette approche raisonnée pour arriver à un traitement. Maintenant, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent cet échec-là, et je pense pas qu'on a dit notre dernier mot. Et il y a peut-être qu'il faut commencer le traitement plus tôt. Et bon, il y a toutes sortes d'enjeux. Donc, je veux pas qu'on se laisse sur une note négative. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a des efforts dans ce sens-là d'arriver à, sur la base de la connaissance du gène, arriver à des traitements qui sont vraiment spécifiques, qui sont raisonnés, qui visent justement à contrecarrer l'effet du gène. Et il y aura des formes qui vont peut-être être amenables, comme possiblement ce syndrome du X fragile, à une thérapie qui est très spécifique, qui met en jeu une petite molécule, un médicament. Puis il y a d'autres formes qui vont être plus difficilement traitables. Donc c'est pas, et au tout début de ça, là, pour l'instant, la bottom line, la conclusion, c'est que ça reste une condition qui n'est pas traitable. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est sûr que tout ce qui est stimulation via la physiothérapie, les stimulations par les psychoéducateurs, la ergothérapie, l'orthophonie, ça fait une différence parce que le cerveau de l'enfant, comme vous savez, est très plastique, et plus on intervient tôt, ça c'est vraiment le modus de toute la déficience, et plus on intervient tôt, plus on a de chance d'améliorer le sort des enfants. Et donc ça, il faut, comme n'importe quel autre enfant, les enfants avec déficience bénéficient de ces programmes de stimulation.
Mm-hmm. Jacques Helmichaud, on ne se laissera pas sur une note tristounette, parce que je veux que l'on parle, avant de se quitter, de cette chaire de recherche en déficience intellectuelle Jonathan Bouchard, la première au Canada, et c'est grâce à la Fondation Sandra et Alain Bouchard. Quels sont les impacts de cette chaire? Parce que, je le disais en introduction, ça génère évidemment probablement beaucoup de curiosité, beaucoup d'espoir aussi chez les familles touchées par la déficience intellectuelle.
Ben, on a décidé de focaliser les travaux de la chaire sur justement ce que je mentionnais tout récemment, là, c'est-à-dire l'idée de partir de la connaissance d'un gène qui est impliqué dans la déficience et pour comprendre la fonction du gène pour arriver à un traitement. Donc, on a identifié deux gènes sur lesquels on a décidé de porter notre attention. Ce sont des gènes qui sont relativement fréquemment touchés là, dans la population québécoise ou ailleurs dans le monde. Et donc, on a choisi ces gènes-là, puis pour ces raisons-là, mais aussi parce que ce sont des gènes dont on a l'espoir qu'ils pourraient peut-être être associés pourraient découler sur des traitements spécifiques. Donc, on a monté toute une équipe, on a essayé d'impliquer pas juste les gens de Sainte-Justine, mais les gens de d'autres centres pour essayer vraiment d'avoir un travail collectif pour arriver à développer au moins les preuves de principe qu'on peut avancer. Et ceux-ci sont aussi des gènes qu'on a choisis parce qu'ils agissent long de voies biochimiques qui sont aussi touchés par d'autres conditions, d'autres formes de déficience. Et donc, on espère qu'en arrivant à développer des stratégies pour traiter cette forme-là, on aura un impact plus large là, que sur ces simples formes-là.
Et une façon de mieux encadrer les familles aussi, de les soutenir dans ce cheminement-là.
Oui, exactement. Et par ailleurs, à Sainte-Justine, et puis ailleurs aussi au Québec, il y a beaucoup d'intérêt pour utiliser la génomique, c'est-à-dire le séquençage de tous les gènes pour arriver à des diagnostics. Et ça, c'est pas des travaux qui sont liés à la chaire, mais des travaux sur lesquels je travaille, mais d'autres chercheurs au Québec. C'est l'idée de vraiment d'utiliser le séquençage de tout le génome, des 20 000 gènes d'emblée en clinique pour arriver au diagnostic le plus vite possible. Et ça, c'est une autre dimension de mes travaux, mais qui sont pas touchés par la chaire Jonathan Bouchard.
Oui, parce que je n'ai pas nommé toutes vos fonctions tout à l'heure, Dr. Michaud, parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes titulaire de cette chaire de recherche en déficience intellectuelle, Jonathan Bouchard, mais également chef de service de génétique médicale au CHU Sainte-Justine, et bien d'autres choses. On m'avait dit que vous étiez un très bon vulgarisateur. Eh bien, c'est maintenant confirmé, Dr. Michaud. Merci beaucoup de ces éclairages, de ces lumières sur la déficience intellectuelle, et on suivra de près vos recherches dans les prochaines années.
Merci beaucoup, Mme Paquette.
Au revoir. Bon après-midi.